J'ai des sources d'inspiration, des femmes célèbres et célébrées, des femmes à la capitale ou à l'étranger, des actrices, des artistes, des journalistes, des militantes, des activistes, des autrices, des sportives. Et c'est en me faisant cette réflexion que parallèlement, je repensais à ma mère, à mes grands-mères, à ces figures de femmes que j'avais sous les yeux tous les jours, celles qui m'entourent, qui m'ont bercée en me contant leur vie. C'est en songeant à leurs combats, leurs envies, leurs idées, leurs projets, que je me suis dit que de nombreuses femmes de nos territoires devaient être mises en valeur. Leur quotidien fait qu'elles sont des femmes d'exception et j'aimerais vous les présenter. Bienvenue chez les femmes de chez moi. Élodie Vignier, c'est comme un rayon de soleil qui traverse la fenêtre pour vous caresser la peau. Elle vous fait cet effet-là, que ce soit avec son rire ou avec ses gâteaux. Elle est à la fois brûlante d'énergie et d'envie, de colère même parfois, et aussi gourmande, sucrée et acidulée. Un épisode au parfum de printemps tout doux pour le moral. Avec Élodie Vignier, on a parlé de Guernica et de musique, de pâtisserie et d'amour, de cuisine et de climat, de Mont-de-Marsan et son marché. Et tout de suite, c'est avec le 31e rituel sonore que s'ouvre cet épisode. The kiss of Venus has got me on the go. She's got a bullseye in the early morning glow. Early morning glow. Bonjour Élodie Vignier. Merci beaucoup de m'accueillir ici chez vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on vient d'entendre et nous dire ce que ça raconte de vous ?
Bonjour. Donc, on a écouté Paul McCartney, un extrait de son dernier album. Pour la petite anecdote, en fait, j'ai choisi cet extrait parce que je devais amener mes enfants cette année, quoi, en 2020, au concert à Bordeaux. Je voulais leur faire découvrir un live d'un vraiment grand artiste qu'ils aiment, hein, qu'ils apprécient, qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Et voilà, bon, malheureusement, bah, c'était annulé. Hein, voilà. Mais le côté positif de l'histoire, c'est qu'il a écrit donc cet album pendant ce confinement. Voilà. Donc, il y a aussi des côtés positifs à ce que nous avons vécu. Enfin, j'essaie de me consoler comme ça. Voilà.
La musique, dans votre vie et dans cette crise qu'on a traversée, ça a été quelque chose d'important ou c'est quelque chose d'important ?
Oui, à la base, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai grandi vraiment dans une ambiance musicale, on va dire. Mon père écoutait beaucoup de musique. Il faisait partie d'un groupe dans les années 80. Il y avait tout le temps des disques à la maison. C'était plutôt rock, jazz, classique aussi. Je me souviens des premiers CD. Non, voilà, on a toujours vécu dans la musique. J'ai toujours vu beaucoup de concerts avec mon père. Notamment, mon premier concert avec lui, je pense que ça a été Midnight Oil. Après, bon, on allait voir Blur, Supergrass, Divine Comedy. Il m'amenait partout, donc c'était chouette. Donc voilà. Et puis mon frère, après aussi, a fait de la musique encore aujourd'hui. C'est Petit Fantôme, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, c'est hyper important pour moi. J'en écoute tout le temps, tous les jours, tous les styles. Voilà, j'aime ça.
Je trouvais que c'était intéressant de faire un parallèle entre ce concert annulé et la création qui continue et ce qui nous est arrivé aussi un peu à toutes et à tous pendant cette crise et peut-être à vous plus particulièrement. Vous partagez, vous créez de la pâtisserie, entre autres, que vous après vendez sur les marchés. Comment vous avez vécu cette crise ? Comment vous avez vécu ce non-contact avec les gens et cette création peut-être un peu plus cachée que d'ordinaire ?
Oui, c'est vrai, c'était très compliqué au début quand on nous a parlé du confinement. Là, on a annulé le marché, donc j'ai été un peu prise de panique parce que, voilà, être indépendant, c'est fragile. Hein, surtout, nous, on n'est que deux dans notre petite structure, donc c'est très fragile. Donc, quand on nous prive vraiment du marché, là, on se dit, est-ce qu'on va pouvoir payer nos factures ? Donc, ça a été très stressant. Heureusement, il a été mis en place un drive. Donc, voilà, c'était tout par téléphone. Les gens arrivaient après au drive avec leur voiture. Ils restaient dans la voiture. On ouvrait le coffre. On mettait la commande dans le coffre. Merci, au revoir. Plus de petits mots parce que c'est vrai qu'au marché, c'est quand même... Il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'humanité, beaucoup de liens. Voilà, il y a des gens qui viennent au marché pour me parler de leurs soucis. Parce qu'ils sont seuls aussi. Hein, voilà, donc là, c'est vrai que je me suis inquiétée pour cela. pour les personnes seules, qui n'ont pas de voiture, qui ne pouvaient pas venir comme ça, ou aussi, pouvaient retirer aussi sans voiture, mais voilà, c'était vite fait, quoi. Il ne fallait pas rester. Donc, bah, je faisais ce que je pouvais avec mes petits gâteaux pour leur donner un petit moment de plaisir. Et j'ai été aussi là pour des livraisons, pour des anniversaires. Les gens fêtaient des anniversaires à 2, 3, 4. Et j'ai fait des gâteaux, des mini-gâteaux, des mini-gâteaux pour 3, 4, pour montrer que j'étais là, même dans ces moments galères. Parce que, après, financièrement, un gâteau pour 4, hein, je ne vous cache pas, ça ne rapporte pas grand-chose. Ça prend autant de temps qu'un gâteau pour 10. Mais voilà, c'était quand même pour montrer qu'on était là, qu'on pensait à eux. Ça me faisait du bien aussi, hein. Donner aux autres, ça apporte énormément aussi à soi.
On pourrait une fois de plus ici parler de résilience, mais l'aspect positif dont on affuble le terme en ce moment occulte la difficulté et ne reflète en aucun cas notre quotidien rachitique. On est contrainte, on est contraint, point.
Oui, c'est vrai que moi, je trouve qu'on est assez discipliné. Hein, on fait tout bien, globalement, on fait tout bien, quoi. On met le masque, on sort pas, tout est fermé. Donc, je pense qu'on fait notre maximum et j'espère que ça va payer. Mais après, moi, je pense que le problème, ce que je disais tout à l'heure, il faut le régler à la base. Et tous les scientifiques le disent, il faut arrêter l'élevage intensif, la déforestation. Je veux dire, les virus, si on détruit leur habitat, comme ceux des animaux qui gèrent ces virus-là, ça se retourne contre nous. On paye, en fait, cette violence qu'on fait subir à ces autres espèces, en fait, que ce soit les plantes ou les animaux. Et c'est dommage, parce qu'on n'est pas tous les humains comme ça. C'est que certaines personnes mal intentionnées qui me... Je supporte pas ça. On est responsable de notre habitat, de ces espèces-là, de l'habitat de ces animaux, quoi. Et non, ça cache tout. Mais bon, voilà, on le paye. Hein. La planète en soi, elle s'en fiche. Hein. Elle fait des tests, on dirait. Elle fait des tests. Elle dit, cette petite espèce humaine-là, avec son cerveau et sans ses poils, est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir? Ah ben non, elle fait un peu n'importe quoi. Voilà, ben on va disparaître. Bref, mais c'est dommage, quoi, parce qu'il y a plein de bonnes choses chez l'humain. Et voilà, donc... J'ose espérer qu'on s'en sorte, mais il faudrait que des décisions politiques soient vraiment prises pour le respect de l'environnement. Voilà.
Ouais, une petite mutation systémique, quoi. Il faudrait que le système change complètement.
Ah oui, mais vraiment. Hein. Mais est-ce qu'on en est capable? Est-ce que nous, pays occidentaux, on est capable de ne plus vivre dans ce confort-là? Moi, je pense qu'on est dans nos dernières années de confort, comme on le vit là. Parce que les autres pays en voie de développement... On va pas leur faire porter tout ce fardeau. C'est pas leur faute, quoi. C'est pas leur faute. C'est vraiment la nôtre. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et là, je me dis, mais moi, la petite pâtissière de Mont-de-Marsan, je le sais, ça. Vous n'allez pas me faire croire que les dirigeants de nos pays ne peuvent pas le mentir sur ça. Ils le savent aussi. Et il faut qu'ils prennent des décisions. Voilà. Donc, voilà. C'est dur. Ouais, c'est dur en ce moment. On en a tous marre. Voilà.
C'est drôle que vous disiez ça parce que la petite pâtissière de Mont-de-Marsan, ouais. comme vous venez de le dire.
Je ne me dénigre pas. Hein. Mais bon, c'est ce que je veux dire.
Mais alors, justement, dans cette crise, il y a énormément de gens qui se sont demandé quel était leur rôle, à quoi ils servaient, est-ce que leur métier avait finalement une utilité quand on voyait que, à part les soignants et quelques commerçants de proximité avaient encore le droit de travailer et étaient nécessaires ou essentiels, voilà, comme le disait le gouvernement. Est-ce que vous êtes posé cette question vous aussi? Est-ce que vous avez compris votre utilité dans cette société?
Oui, je me sens utile, essentielle, quand je vois que les gens m'appellent, me disent « Est-ce que vous pouvez me faire ce gâteau ?» Bon, je me dis « Ils n'ont vraiment pas le temps de le faire. » Voilà, je me dis « Bon, ça me fait plaisir. » Ou alors « Ils aiment mon produit. » Voilà, ça me fait plaisir. J'essaie de me rassurer comme ça en me disant que je suis utile à la société. Mais après, je pense qu'on l'est tous. Hein, moi, je suis surtout pour le rapport humain. Je pense qu'on peut vraiment tous s'apporter. Je pense que je suis autant essentielle que un cinéma, un musée, et c'est ça qui me dérange un peu là, c'est que voilà, ces autres personnes, les comédiens, les musiciens là, sont un peu mis de côté, et ça m'énerve. Les médiathèques, bon, si on peut y aller, mais bon, c'est plus comme avant, quoi. C'est voilà, mais je pense que je suis, on est tous essentiels. Hein. On a chacun notre place, voilà.
C'est... Ah, mais si. En plus, t'as tout le côté réconfort avec la bouffe que t'apportes.
Ouais,
toujours.
Mais bon, alors attends, parce qu'avec ça, des fois, je culpabilise. Non, parce que je cogite beaucoup. Je culpabilise des fois parce que je fais des gâteaux. Donc, je dis avec modération, pas trop souvent, parce que je voudrais pas que les gens soient malades non plus. Donc, on fait aussi du salé. On fait aussi des salades, hein, des tartes salées, des trucs comme ça. Ouais, non, mais mon mari, des fois, il m'appelle le diable quand je lui fais des cookies ou des gâteaux. D'ailleurs, on est un couple heureux, tous les deux. On a pris 10 kilos chacun depuis qu'on se connaît. Voilà, il paraît que les couples heureux grossissent. Donc, voilà. Mais non, mais sinon... sinon, ouais, je me sens utile dans la société... par mes gâteaux, mais aussi quand je discute avec mes clients. Quand je dis clients, vraiment, je sens qu'ils sont contents de venir parler. Parce que le gâteau est un prétexte, j'en suis sûre.
Vous avez évoqué Jean, donc on a compris que c'est votre mari, et aussi le père de vos enfants, on y reviendra. Et votre rencontre avec Jean vous a amené à la cuisine. Alors, expliquez-moi comment ça s'est passé. Vous avez découvert une passion en commun. Vous me disiez, dites-nous tout.
Alors, avec Jean, Jean a fait des études d'art plastique comme moi. Parce que voilà, moi, j'ai commencé par ça. Et bon, quand on s'est rencontrés, c'était un ami d'amis. Hein, voilà. On discutait de tout, hein, musique, cuisine, art... Et un jour, il a fait le premier pas, il m'a invité à manger chez lui. Et là, j'ai trouvé vraiment qu'il avait du talent, quoi. C'était, il m'avait bluffé. Et je me rappelle encore du menu, vraiment, c'était chouette, quoi. Et, carottes râpées à l'orange. Hein, ça peut paraître tout bête comme ça, mais c'était les meilleures carottes à l'orange que j'ai mangées de ma vie. Ensuite, c'était un tagine au pruneau, je crois. Et après, une tarte aux pommes. Menu très simple, hein, mais enfin, efficace. Ouais. Mais très efficace. Voilà. Et on a parlé cuisine plusieurs fois. Voilà. Puis bon, la vie, on se fréquentait, tout ça. Bref. Et on a décidé d'avoir un enfant. Et là, quand même, on s'est dit, bon, on fait des petits métiers, pas précaires, mais oui, bon, petits métiers. Il faudrait peut-être qu'on soit sérieux, des vrais parents, avec un travail et tout. Et là, ben on s'est dit, pourquoi pas la cuisine. Moi, je faisais beaucoup de gâteaux déjà à l'époque. Et comme ça, en amateur. Et du coup, on s'est dit, ben, on n'a qu'à faire un truc. Et il fallait à tout prix qu'un des deux ait un CAP pour ouvrir une affaire. Donc, tous les deux, on s'est présentés. Et tous les deux, on a été pris. Donc, il est parti en formation pendant un an, lui, sur la côte, pour être cuisinier. Et moi, ici, à Mont-de-Marsan, pour être pâtissière. Et du coup, on a eu notre CAP en même temps. Et voilà, et on a ouvert le restaurant. Ça allait très vite, hein. Voilà, c'est un petit peu... presque le caprice, quoi. Toi, on n'a qu'à faire ça. Ouais, vas-y, on essaye.
Bon. Ça l'a fait, quoi.
Ouais, ça l'a fait, ça a marché super bien. On a ouvert un resto, quoi. Non, d'abord, il a été cuisinier aux Clés d'Argent. Il a fait son stage et après, il a été embauché comme second. Ils ont obtenu l'étoile. Ouais, c'était chouette. Il a adoré ce moment. Christophe Dupouille est un très bon prof de cuisine. Et lui a... Voilà, ça l'a fait. Tous les deux, ils ont bien avancé. Et moi, j'avais ouvert ma pâtisserie juste après le CAP. En fait, j'étais sur le marché. J'ai commencé par le marché. Et après, tous les deux, on a ouvert le restaurant, La Bouche en Cœur, pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on l'a revendu. Et maintenant, on fait la dinette à roulette. Voilà. On est toujours là, au bout de... Ça fait quoi, depuis 2008 ? Ouais, ça fait pas mal d'années maintenant.
Donc vous avez fait un CAP pâtissière, chocolatière, glacière et confisière.
Ouais, c'est le dernier. C'était la dernière année où il y avait ce CAP-là.
C'est un peu gourmand, cette histoire.
Ouais. CAP en 9 mois, donc c'était intensif. Et après, à partir de l'année d'après, c'était que pâtissier. Après, il faut se spécialiser si on veut être chocolatier, voilà. Donc là, on apprenait de tout. Mais c'était sympa. J'avais des super profs. Je l'ai fait à Mont-de-Marsan, CFA, vraiment chouette, quoi. Des très belles rencontres que j'ai toujours, d'ailleurs. J'ai toujours gardé un lien avec mes profs. Vraiment super moment, quoi.
Et donc, vous avez fait votre stage à Mont-de-Marsan aussi, chez Dobos.
Ouais. Et... Denis Dobos, ouais. Denis Dobos, à Mont-de-Marsan, côté de l'église de la Madeleine. Ouais. Et chez Gérard Bougnor, qui vendait le gâteau d'Albret sur le marché. Voilà. Deux chouettes personnages, des amoureux de pâtisserie, des passionnés. Ils font tout de A à Z. Vous ne trouverez pas un produit fini, un produit genre des œufs en bidon, ou du praliné en seau. Ils font tout eux-mêmes, c'est super.
Déjà, c'est très bizarre de savoir que ça existe, ce genre de choses. Et donc, après ces stages donc pour l'un et pour l'autre, 2008, vous l'avez dit, la bouche en cas.
Ouais.
Comment ça s'est passé, cette histoire, quand vous décidez d'ouvrir votre affaire et comment commencer la vie quand on a un établissement comme la bouche en cas?
On a décidé d'ouvrir un restaurant. On en avait envie de tout maîtriser, de A à Z. J'étais jeune, Jean aussi, mais c'était assez. J'avais une vision assez utopique du restaurant. Je me disais, je vais faire un restaurant où tout sera fait maison et tous les budgets pourront venir manger, que ce soit un étudiant, un chômeur, un médecin, un ouvrier, secrétaire, voilà. Tous les budgets pourraient manger sain, un bon repas, tout ça. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a été complet tout le temps. Pendant 5 ans, on était complet. Je refusais 50, 60 personnes par jour. Mais au final, c'était très compliqué parce que on gagnait pas d'argent du tout, quoi. La structure était trop petite, je pense aussi. Était petite et il fallait augmenter les prix pour essayer de s'en sortir. Même si jusqu'à la fin, on avait un prix très raisonnable, que tout le monde pouvait venir manger, c'était pas vraiment assez rentable. Voilà. Et ma banquière nous le disait déjà à l'époque. Elle nous disait votre projet, c'est super, mais ça ne marchera pas. Plus tard, et ça, c'était il y a 10 ans qu'elle me disait ça. Elle dit les seuls restaurants qui seront vraiment rentables, ce sera les franchises. Les franchises, et après, il faut taper dans le grand luxe. Mais elle n'a pas complètement tort, en fait. C'est très compliqué. D'ailleurs, il y a plein de restos qui ne font pas de vente à emporter parce que ce n'est pas rentable. C'est l'alcool qui fait aussi la marge quand on vend des repas. Donc, ça a été une période très dure parce qu'on travaillait énormément. On avait vraiment la tête dans le guidon. Alors, Jean et moi, on était 24 heures sur 24 ensemble, travailler, rentrer à la maison. C'était très tendu quand même des fois parce que, voilà, on travaillait, mais au final, on avait tout le temps croulé sous les dettes. Mais à côté de ça, j'ai rencontré des gens super. J'ai vécu des super moments, on a fait vraiment des super plats, on a sorti des trucs vraiment super. Et j'ai eu une stagiaire qui était formidable, qui en plus, là où ça me touche vraiment, c'est que notre vie a fait changer le destin de certaines personnes. Cette étudiante en droit qui venait manger avec sa mère, qui adorait venir chez nous manger le midi de temps en temps, le week-end, un jour, a tout plaqué. Pour en disant moi je veux faire comme vous, donc responsabilité encore, merci. Et du coup elle a fait un stage de cuisine, après un stage de pâtisserie, après elle a passé ses CAP et maintenant elle est prof au CFA à Mont-de-Marsan, donc ça m'a fait trop plaisir. Il y a plein de jeunes qui sont passés par là faire des stages. On leur a appris un peu le métier et ça a fait du bien. Donc de belles rencontres, des clients adorables. J'ai rencontré vraiment des clients qui sont devenus des amis. Voilà, c'était une petite maison, c'était très familial. On était tous les deux, c'était papa et maman qui vous font à manger. Le midi, il n'y avait pas le choix, c'était vraiment, on mangeait ce qu'il y avait, quoi. Mais les gens aimaient avoir la surprise. Les gens difficiles, en fait, ils ne venaient pas, c'était très bien. Et voilà, donc non, c'était chouette, mais c'était trop dur. Et j'ai eu mon deuxième enfant pendant cette période-là. J'ai accouché, vraiment, j'ai travaillé jusqu'au jour du terme, j'ai repris... 3 semaines après, c'est là je commençais. Je crois que les hormones me sont montées à la tête. Je commençais à péter les plombs. C'était horrible. Et j'ai dit à mon mari, on vend parce que je crois que là, je ne vais pas supporter. Donc, on a vendu. Et on a de suite enchaîné avec la vente sur les marchés, la vente à emporter, travailler sur Musique à la rue, la saison d'hiver avec les cigales. Où on fait à manger donc avant les concerts pour les artistes, les bénévoles et le public. Et le Manoir de Léon, un partenaire aussi avec qui on travaille, pour qui on fait les repas pour les artistes qui viennent en résidence. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Pour l'instant, ça va. Dans 5 ans, ça se trouve, j'ouvrirai un resto sur la côte, je sais pas.
Ouais, enfin, c'est pas trop la période d'ouvrir des restos.
Non, mais laissez-moi rêver. J'ai envie de soleil, de plage et de resto. Ok ? C'est mon rêve. Merci. Okay, à côté d'un cinéma, avec plein de gens et tout.
Et des concerts.
Et des concerts en terrasse, tout ce que vous voulez. Ça me tarde. Ça va être bien.
Ce sera super.
Oh là là. Waouh. Voilà.
Donc vous rencontrez Jean, vous avez 25 ans. Votre premier enfant, vous l'avez à 26. Le deuxième arrêt, donc à 32, on l'a compris, avec en même temps que la bouche en cœur. Ouais. Et c'est ce qui vous fait arrêter pour avoir le temps aussi pour ce deuxième enfant. C'est quoi votre rapport à la maternité ? Comment vous avez vécu ça ? Et pourquoi ? Ou comment, de 25 à 26 ? C'est alors, rapide.
Ouais, c'est vrai. C'était l'évidence, on va dire. J'ai rencontré Jean et très très vite, genre 3 mois après, on s'est dit tiens, si on faisait un enfant, l'amour, la passion. Et moi, j'étais là, ouais, carrément, on pourrait vraiment faire un enfant là. Surtout que ça se trouve, on va mettre 1 an ou 2 ans. J'avais des copines qui galéraient. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas galéré du tout. Le mois d'après, j'étais enceinte. Mes parents ne le connaissaient pas vraiment. Je ne suis même pas sûre que les parents de Jean m'aient déjà vu, peut-être une fois. Bref, on était super heureux et Agathe est arrivée en 2006. Et bon, et ça nous a boosté, hein, parce que sans Agathe, je ne suis pas sûre qu'on se soit lancé de suite dans la cuisine. On a voulu être des parents responsables en ayant un vrai travail, donc. Donc voilà. Et après, si j'ai aussi arrêté le restaurant, c'était justement pour être plus présente, parce que la restauration, c'est très dur, surtout quand on n'est que 2 dans l'affaire. C'est très dur parce qu'on est tout le temps au boulot, de 7h du matin à 22h minuit, et voilà, demander aux mamies, aux nounous de garder les enfants. Et moi, je me suis dit, non, mais c'est pas ça que je veux, quoi. Mes enfants, je veux en faire des bonnes personnes, je veux m'en occuper, je veux les élever, même s'ils sont très bien avec les nounous et les mamies et les papys. Voilà, non, je voulais m'en occuper. Et voilà, c'est pour ça que là, dans notre nouvelle activité, où on est sur du emporté, du nomade, on va dire, on est beaucoup plus présent pour nos enfants. Et je travaille à la maison. Ça n'a pas que des avantages. On les aime, les enfants, mais des fois, au secours. Mais ouais, je pense que ça paye, quoi. Ils sont bien dans leur basket, ça bosse bien à l'école, ils sont curieux, voilà, c'est ça. Et puis, le temps qu'on a perdu sans les voir, on ne peut pas le rattraper, j'y crois pas trop. Donc voilà, j'essaie d'en profiter à fond.
Bon, donc avec Jean, en commun, vous avez ces 2 enfants, et cette passion de la cuisine, et puis l'art, on l'a évoqué au début de cet entretien. Vous avez tous les deux fait des études dans l'art. Quelle place ça occupe aujourd'hui dans votre vie ?
Malheureusement, je trouve que ça manque justement, l'art plastique, les arts plastiques. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait des études d'art plastique. Je suis allée jusqu'en maîtrise d'art plastique, et Jean a fait les beaux-arts. Mais le problème, c'est que la cuisine, ça prend énormément de temps et on se perd un peu. Et c'est vrai que j'aimerais bien me remettre au dessin, à la peinture. J'y pense très souvent. Dès qu'on va voir une expo, quoi, avant, dans la vie d'avant, quand on allait voir une expo, à chaque fois, ça nous reboostait comme des fous. Par exemple, quand on est allé à la Halle Saint-Pierre, je crois que ça s'appelle comme ça, à Paris, c'est vraiment hyper bien cet endroit, je le recommande à tout le monde. Et à chaque fois qu'on regarde ce qui se fait en graphisme, ça nous donne envie de s'y mettre. Mais la réalité nous rattrape et on a toujours le temps pris pour le boulot. Donc je trouve quand même que ça nous manque à tous les deux. On se nourrit différemment, on se nourrit par la musique, on écoute énormément la radio avec sur des émissions d'art. On regarde des séries, des films et tout, mais nous, par rapport à la pratique, ça nous manque. Et heureusement, quand même, on crée en cuisine. C'est une forme de création, quand même. Hein, c'est de la...
ce que j'allais vous demander. Oui. Il y a quand même un petit parallèle entre la cuisine et l'art.
Tout à fait. Dans les couleurs, dans les saveurs, après même dans le dressage des assiettes. C'est quand même... Il y a une démarche artistique dans le logo, la création du logo, la présentation de ma vitrine, de mon stand. C'est toujours un peu de la scénographie ou... Voilà, mais après, quand on parle vraiment... moi, je pense que la peinture, je vais y revenir. La peinture, le dessin, et Jean aussi, je le sais. On griffonne avec les enfants, Léonard dessine... Léonard, hein, je tiens à préciser, voilà le prénom. Hein, ça veut tout dire, on a choisi ça aussi comme prénom. Donc Léonard dessine beaucoup, on dessine avec lui. Agathe aussi est très dans la création, faire une école de mode. Les chiens font pas des chats. Mais moi, il me manque du temps. Il me faudrait plus d'heures dans ma semaine pour avoir certains loisirs, quand même.
Ça a fait partie, quand même, de vos expériences professionnelles, là. Vous avez été prof quelque temps, si je ne m'abuse.
Oui, c'est vrai, exact. J'ai passé, après ma licence, pendant que je préparais ma maîtrise d'art plastique, je donnais des cours d'art plastique à l'EREA, à Saint-Pierre-du-Mont. Juste comme ça, le vendredi, quelques heures... pour des classes assez difficiles, mais c'était hyper bien, très enrichissant. C'était amener des enfants, un public qui n'avait pas vraiment accès à l'art, les amener là-dedans. Et on a eu de vraiment belles surprises, des beaux boulots. Il a fallu que je les impressionne parce que j'avais 21 ans, ils en avaient 17, 18 certains, donc... il a fallu que je leur mette plein la vue le premier jour de cours. J'étais arrivée une heure à l'avance et j'avais étalé sur les murs toutes mes créations de la fac. Et quand ils sont rentrés, c'est qui a fait ça? Je fais, c'est moi. Et du coup, ça a fait, ça a un petit peu imposé une forme de respect. Et puis du coup, toute l'année, ça m'a servi. Et ils sont en demande, de toute façon, l'art, c'est tellement important pour l'ouverture d'esprit. Et puis, ils peuvent exprimer en dessin, en sculpture, en peinture, que ce soit de manière figurative ou non, des sentiments qu'ils ont, qu'ils n'arrivent pas à verbaliser, surtout dans ce public-là. Voilà. Moi, c'était une très bonne expérience, mais je n'ai pas voulu en faire mon métier non plus. J'aurais pu passer mon CAPES... Mais non, j'avais envie d'autre chose.
Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette expérience?
Que j'en étais capable. J'ai arrêté de me dévaloriser, parce que c'est vrai que ça, c'est très difficile. J'ai un tempérament, je trouve que... je suis toujours très souriante, positive et tout, devant mes clients, dans mon travail. Mais j'ai tendance à me dévaloriser énormément. Et en fait, quand je voyais des résultats comme ça, des gamins qui étaient heureux de venir en cours, de peindre, je me disais, quand même, tu vois, là, tu leur as fait du bien. Ces gamins qui ont une vie pourrie, certains, tristes, malheureuses, ils avaient vraiment une bouffée d'oxygène, quoi. Et ils se sentaient compris. Mais l'enseignement, c'est un super boulot. Franchement, c'est un super boulot. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font avec passion.
Mais c'était pas pour vous.
Non, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Ouais, non, je me voyais pas faire ça toute ma vie, parce que c'est aussi un engagement quand on est enseignant à fonction publique. Voilà, moi je me dis non, je vais pas faire ça toute ma vie, je vais pas y arriver. Je vais pas supporter, à un moment je vais vouloir. Est-ce que je vais pas regretter, avoir des regrets, ne pas vous avoir fait ci, ça. Voilà, bon, ça se trouve, j'y retournerai, hein. On sait pas. Hein. On sait pas.
Après,
quand on.
Oui,
c'est ça. C'est ça. Mais déjà, quand on prend des stagiaires, c'est une forme d'enseignement. Hein. J'en ai pris plus d'un et ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est transmettre le savoir. Voilà. J'aime bien ça. C'est ça la vie. Hein. C'est ça, c'est les échanges entre générations. Non, non, c'est bien.
On parlait de votre rôle que petite pâtissière montoise tout à l'heure, au même titre que donc, le rôle de la cuisine, de la nourriture et du lien, selon vous, quel a été le rôle de l'art, quel est même le rôle de l'art dans cette crise qu'on travaille avec votre regard d'artiste pâtissière, on peut dire ça?
Ouais. Le rôle de l'art, mais justement, c'est nous faire... avancer, regarder un peu, relever le nez, regarder le monde qui nous entoure, essayer de le comprendre. Les artistes nous donnent à réfléchir, à penser le quotidien avec leur vision. Et voilà, moi je pense que l'art, ça sert à ça. C'est regarder une série, ça peut nous faire réfléchir. Quand on regarde... La Servante écarlate. On dit non, non, on va pas arriver jusque là. On va faire attention. Je sais pas. Ouais, non. Moi, je pense quand même qu'il faut s'ouvrir. Voilà. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais on vit dans une société tellement où on regarde que soi avec ses réseaux sociaux, la génération du selfie. Ça fait un petit peu peur, alors que quand on s'élève un petit peu avec l'art, on apprend énormément.
Hein. Ça fait prendre du recul.
Ouais. Ou alors, oui, ça peut prendre. On peut prendre du recul, mais aussi on peut s'impliquer. On peut s'inclure dans notre monde. On fait plus. Moi, j'ai l'impression que je vais plus faire partie. Du monde dans lequel je vis, si j'essaie de le vivre à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment expliquer ça. voilà, j'essaie de m'imprégner du regard d'un artiste pour ouvrir mon esprit. Voilà, et c'est... Voilà. Non, c'est important. Là, en ce moment, j'ai envie d'aller au musée, j'ai envie d'aller voir une expo, j'ai envie d'aller au cinéma... Donc, ouais, c'est compliqué, mais tout n'est pas perdu.
Ouais. Alors, Élodie, on a, depuis tout à l'heure, évoqué le manoir à Léon. On a parlé de musique à la rue aussi, à Luxeuil. On a évoqué le marché, je crois, sans préciser forcément que c'était celui de Mont-de-Marsan, parce que Mont-de-Marsan, c'est la ville dans laquelle vous vivez aujourd'hui, vous exercez votre activité. La Bouche en Cœur était aussi à Mont-de-Marsan. C'est la ville dans laquelle vous êtes née aussi. Alors, j'aimerais que vous me parliez de Mont-de-Marsan, des Landes et du Sud-Ouest en général. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça?
Alors là, c'est vrai que je me pose pas trop cette question. C'est vrai que j'ai quasiment que vécu ici, quoi. Dans le Sud-Ouest, notamment, ça c'est sûr. Hein. Je suis 100% Sud-Ouest. Voilà, donc je suis née ici. J'ai fait mes études à Bordeaux. Non, j'aime cette région. Déjà, le climat, normalement. C'est vrai que là, il pleut beaucoup, mais j'aime le climat, j'aime les gens, l'ambiance. J'aime bien la forêt, même si c'est de la forêt artificielle, les cultures intensives, tout ce que vous voulez. J'aime bien la mer, même si je n'y vais jamais, puisque je n'ai jamais de vacances. tu vois, je suis vachement positive. Ouais, mon vrai côté se révèle. Non, non. Mais non, j'aime les Landes, j'aime le Sud-Ouest. Après, j'aime voyager, mais je n'ai pas le temps. Voilà. Voilà. Et ça se trouve, heureusement que je ne voyage pas trop, parce que ça se trouve, je partirai et vous me perdrez. Non, non, je blague. Non, j'aime bien les Landes. J'aime bien Mont-de-Marsan, ouais, ça va.
Mais... T'aimes bien quoi ?
Ben c'est, ouais, j'ai l'impression que c'est, une grande, que c'est ma famille ici. Quoi. C'est ma, pour l'instant, c'est ma place. Écoute, qu'est-ce que tu veux ? C'est ma place ici. Est-ce que... Mais, peut-être que j'en partirai, hein, mais pour l'instant, je suis bien avec ces gens-là. Alors, c'est vrai que quand je pars au manoir de Léon et que je rencontre des gens qui viennent de l'extérieur, des fois, je me mettrai bien dans leur valise. Je partirai bien, voilà, quelques temps avec eux. Mais j'ai l'impression que je fais partie du cadre, en fait. C'est que les gens qui sont de passage ici, en fait, je fais partie des éléments qui retiennent des Landes. Tu vois ? Voilà, mais non, j'aime bien cet endroit.
Pour faire une petite pause musicale, je vais vous laisser nous annoncer votre choix, Élodie.
Pour cette petite pause musicale, j'ai choisi Métronomie avec la chanson Everything Goes My Way. Voilà. Bah, c'est le dernier concert que j'ai vu, en fait. Ouais, c'était super, c'était à Rocher de Palmer. Et très beau concert, juste avant le confinement. Donc voilà, c'était bien.
Sur MDM et vous écoutez Les Femmes de chez moi, épisode 31, Élodie Vigné. Élodie Vigné, dans la deuxième partie de cette émission, on va s'intéresser à trois souvenirs qui ont fait de vous celle que vous êtes aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le premier souvenir, s'il vous plaît ?
J'ai choisi comme premier souvenir ma première sortie au marché de Mont-de-Marsan, d'ailleurs. quand il était encore dans les rues, près du théâtre. Donc ça, c'est des souvenirs. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Les gens sont dehors, les vendeurs vendent leur production. J'adorais ça, j'adorais cette ambiance. Et puis ça me rappelait mon arrière-grand-mère qui allait tout le temps acheter ses produits, qui nous faisait tous les dimanches le même plat avec les produits du marché. Voilà, ça, c'est un souvenir qui a changé un peu ma vie, qui a un peu tracé ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai toujours aimé cette ambiance de marché. Et d'ailleurs, si je vais dans une ville en vacances, ou si je suis de passage, je vais tout le temps dans un marché. Beaucoup font ça d'ailleurs, hein. C'est un truc que tout le monde aime, on aime ça. Tous les gens qui partent en voyage, même à l'étranger, il y en a partout dans le monde. Ça rassemble les gens.
C'est le côté flânerie aussi.
On peut flâner et puis on voit vraiment la culture du pays ou de la région, de la ville avec les spécialités. Voilà, si on veut vraiment entrer dans la vie locale, il faut d'abord passer par le marché. Ça, j'en suis sûre et convaincue. Et on voit vraiment des gens qui aiment leur travail, qui valorisent leurs produits. Si on veut bien manger... Vaut mieux aller aussi sur un marché. On peut avoir et puis on peut vraiment découvrir de chouettes produits. Hein. Voilà. Donc ça, c'est mon premier souvenir. Petite, je me suis dit, ah ouais, là, il y a un truc qui se passe. J'adore cette ambiance, quoi. Ça boue, ouais.
Il y a deux choses dans le marché, moi, qui m'ont interpellée, qui m'ont fait penser à deux aspects de votre personnalité. Il y a à la fois ce côté lien social du marché qu'on a évoqué déjà jusqu'à maintenant, et puis cette conscience du bon. C'est des circuits courts, généralement le marché, c'est des produits auxquels on fait attention, qu'on va choisir. Il y a tout ce côté soin aussi et naturel, ça rentre en ligne de compte aussi.
Oui, tout à fait. Alors c'est tellement important ce qu'on mange. C'est ce qui nous fabrique, hein. Je veux dire, chaque cellule voilà, va se fabriquer de ce qu'on mange. Et donc là, on peut le choisir, on cible son producteur en qui on a confiance. Même les revendeurs, il y a des revendeurs qui vont faire tout le boulot avant nous, qui vont choisir, qui vont regrouper toute la production de différents producteurs. De talent, quoi. Donc, ouais, c'est ça. C'est des produits de qualité parce que c'est hyper important, bien manger. C'est déjà, quand on se balade dans un marché, on peut rêver, voilà, on voit ce légume, je vais faire ça à midi. On peut discuter d'une recette avec un autre client ou un producteur. C'est important. Ce qu'on mange, ça peut nous mettre en joie. Voilà, c'est hyper important. Bon, moi, je sais que je peux être très désagréable si je mange très mal. Si je suis hyper déçue dans un resto, je peux être très désagréable. Voilà, donc c'est hyper important de bien manger pour sa santé déjà et son moral.
J'imagine que vous faites attention aussi à ce que vous mettez dans vos productions.
Oui, je fais attention. Déjà, je fabrique tout avec des produits frais. Voilà, tout. Je vais faire pour certains produits, en effet, je vais prendre en bio, d'autres en culture raisonnée. Voilà, mais je ne fais pas de semi-élaborés ou certains qui commandent des pâtes, des fonds de tarte déjà tout prêts ou des crèmes. Moi, mes crèmes ont vu des œufs, quoi. Donc, souvent...
Que vous avez cassé.
Que j'ai cassé, voilà, qui ont vu des poules. Ouais, non, parce que ça arrive, hein. Moi, je n'ai jamais travaillé avec des gens comme ça, mais des gens qui se disent artisans et qui prennent de la crème en poudre, rajoutent de l'eau et hop, crème pâtissière. Ça, c'est hors de question que je fasse un truc pareil. Voilà, c'est un non-respect du métier, c'est affreux. Et le pire, c'est que en fait, c'est tout fabriqué de A à Z, ça nous coûte vraiment plus cher que si on achetait les produits finis. Donc la facilité, ce serait, hein, d'acheter certains produits tout finis, mais Mais non, je ne pourrais pas me regarder dans une glace. Non, ça c'est sûr. Je ne pourrais pas regarder mes clients dans les yeux. Je serais morte de honte. Ouais.
L'amour du travail bien fait.
Oui, ça c'est vrai. On prend beaucoup de temps, on s'applique, on réfléchit à nos recettes. Non, la cuisine, ça prend vraiment beaucoup de temps. Plus tous les deux à côté, la vaisselle, les courses, nettoyer, désinfecter. Mais après, quand on voit les clients si contents, quand je reçois les messages de mes clients avec des photos de leurs enfants derrière le gâteau d'anniversaire, ça j'adore, ça me fait super plaisir. Ouais, ça c'est... On fait un métier, quoi. Dans la pâtisserie, on fait un métier où on sait que notre travail, à un moment, va être partagé avec la famille. Ça va être des grands yeux. Ah, waouh, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment de plaisir. Donc, je sais que je participe à un moment de plaisir tous les jours. Je ressens ces ondes positives qui viennent vers moi. C'est la récompense d'un travail difficile, parce que c'est vrai que pour préparer le marché, c'est des heures de boulot. 18h, 20h, le vendredi, je travaille presque 20h. Je me lève à 3h30 du matin. C'est très, très intense, mais voilà, la récompense est là. Les gens sont présents. Et avec le sourire, quoi. Derrière le masque. Je le sais, aux yeux qui plissent. Voilà. On apprend à voir le sourire dans les yeux.
Les yeux petits, parce que c'est beau, très certainement. Et ce goût du beau, ou de la création, des choses bien faites, ça découle très certainement de votre deuxième souvenir aussi.
Oui, c'est vrai. Mon deuxième souvenir, c'est quelqu'un. C'est Madame Nézondé, ma prof d'art plastique du collège. Donc ça, les anciens élèves du BIE Montois vont sûrement penser à elle, parce que voilà, elle était vraiment excentrique. On la voyait arriver de loin, des boucles d'oreilles, des grandes robes de couleur. Mais une femme pétillante et impressionnante, mais qui adorait son métier et qui nous parlait de trucs qu'on n'avait jamais... Moi, j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, mes parents étaient ouverts, allaient avoir des concerts, tout ça, mais quelques expos, mais je ne sais pas trop de souvenirs, petite, d'être allée au musée, plus que ça. Mais et du coup, moi, j'ai découvert les nouveaux réalistes. Elle, c'était une passionnée de Jean Tinguely, de Niki de Saint-Phalle, elle nous amenait au CAPC à Bordeaux. Elle avait créé un club art plastique. Et j'adorais ça. J'adorais cette femme. C'était la grande révélation. Elle faisait un club mosaïque. J'étais inscrite à tous les clubs qu'elle faisait. On avait découvert la figuration narrative.
Qu'est-ce que c'est ?
C'était Combass, c'était des petits dessins ou comment il s'appelle ? Kissaring, tu vois ? Tous ces petits personnages, ça parle énormément aux enfants. Ça fait un peu univers BD, mais en fait, des fois, tu as ces images hyper violentes. Mais bon, après, avec ton regard d'enfant, tu les interprètes différemment. Voilà, les enfants, ils analysent pas tout comme un adulte. Et puis rien que ce lieu, le CAPC, aux entrepôts Lainez à Bordeaux. Mais quand on est en cinquième, tout petit, quand on rentre là-dedans, qu'on voit des œuvres, de l'art conceptuel, quand t'as jamais vu ça. Mais elle, avec son discours derrière, qui nous expliquait tout, mais moi, je trouvais ça passionnant. J'étais là, mais on peut faire son métier en étant artiste comme ça. Pour moi, ça, c'était passionnant, développer sa démarche artistique ou d'autres qui étalaient de la nourriture sur les murs et on attendait de voir comment ça moisissait. Et moi, j'étais là, mais c'est génial. Je trouvais tout génial. Et en plus, j'étais très timide, très complexée, très introvertie. Au collège, elle m'a ouvert les yeux. Et je me souviens, un jour, elle avait donné un sujet. Le sujet... Le cœur, voilà, deux mots, le cœur. On devait faire ce qu'on voulait. On avait vraiment, on faisait ce qu'on voulait avec ce mot, le cœur. Et donc tous avaient pris sa feuille, peinture, avaient dessiné des cœurs, plus petits. petit, grand. Mais alors moi, j'étais partie dans un truc, j'étais rentrée chez moi, j'avais dit à ma mère, on va faire une robe. Donc j'avais fait une robe qu'avec des cœurs en tissu. Bien sûr, ma mère m'avait quand même aidée à coudre hein, parce que c'était pas mon fort. Et j'avais fait défiler une copine sur la table avec une robe faite de cœurs, tout ça. Et la prof était super contente. J'étais trop fière. Je disais, ah, non, non, mais moi, maintenant, je veux plus avoir du papier, du crayon. Là, c'était ma période. Non, mais on va développer des idées ailleurs, différemment. Genre, limite, j'avais envie de faire des performances. Je trouvais ça génial. Et cette prof, elle m'a ouvert la voie vers mes études. Après, j'ai fait un bac littéraire option lourde art plastique, plus l'option facultative art plastique. Et après, j'ai fait la fac d'art plastique. Mais j'ai adoré mes études, même si là, aujourd'hui, je ne fais plus du tout des arts plastiques, on va dire. J'ai adoré ces études. Ce n'est pas des études après... Ce ne sont pas des études qui vous dirigent vers pour être artiste, quoi. C'est plus pour l'enseignement artistique. Après, sinon, ben, pour être chercheur, faire une... Mais bon, comme c'est des métiers, il y a très peu de postes, beaucoup de candidats, pas de beaucoup de postes. Et puis après, bon, voilà, à 23 ans, j'avais envie d'autre chose. Et moi, 21 ans, j'avais envie d'autre chose. Mais voilà, elle m'a ouvert la voie. J'ai adoré mes études. J'ai adoré tous les profs que j'ai eus, que ce soit en pratique... En art actuel, les rencontres que j'ai faites, c'était vraiment chouette. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ces études-là. C'est tellement enrichissant, mais voilà, ça nous aide à voir le monde dans lequel on vit. Comme l'histoire, hein, il faut apprendre l'histoire pour ne pas reproduire les horreurs qu'on puisse passer. Mais il faut aussi mêler à ça la vision des artistes, une version personnelle, humaine, de la société qu'ils ont vécue, de la vie qu'ils ont vécue. Et puis l'art d'aujourd'hui, pour mieux le comprendre, c'est important aussi de connaître l'art d'avant. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant, là. Que ce soit l'art préhistorique, dans les grottes, qu'on n'arrive toujours pas à interpréter vraiment jusqu'à aujourd'hui. Non, j'adore. J'adore ça. Ouais.
Donc, c'est vrai.
Et ça, c'est Madame Nézondé. Pourtant, mais même si mes parents... moi, je me souviens, ma mère, elle avait une encyclopédie, ça s'appelait Les Grands Peintres. Et il y avait, je ne sais pas, 10 tomes, une vieille encyclopédie. Je passais mon temps à la regarder, fascinée par les tableaux de Bruegel l'Ancien ou des visions de l'enfer. Je regardais tous les diables et tout. Je me faisais peur toute seule. J'étais gamine. Hein. J'adorais ça. J'ai toujours aimé ça. Ou Picasso, les tableaux de Picasso, Guernica, ça me terrorisait. Et évidemment, ça devait me terroriser. Il avait réussi son coup. La guerre, c'est horrible. Donc voilà, j'adore ça.
Pour le troisième souvenir, Élodie, vous avez choisi d'évoquer deux hommes dont on a déjà parlé. Vos deux maîtres d'apprentissage, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, c'est ça. Donc pendant mon année de CAP pâtisserie, j'avais à la fois cours au CFA. Et j'avais aussi des stages à faire en entreprise. Donc, j'avais choisi l'entreprise de Denis Dobos, donc à Mont-de-Marsan, sa pâtisserie chocolaterie, parce que c'est un travail de qualité. Je connaissais ses produits et sa réputation. Donc, et je n'ai pas été déçue. Vraiment... la qualité était là et vraiment la passion du travail. C'était un plaisir d'y aller chaque jour parce que c'est un homme vraiment passionné qui fabrique tous les jours avec l'amour du métier. Et sa femme aussi, pareil, c'est un couple très uni, très uni, parce que dans ce métier-là, quand on travaille, ce qu'il m'avait dit, lui, quand on travaille en couple, ça passe ou ça casse, voilà. Et si ça passe toute la vie, quoi. Parce que c'est vraiment tellement intense, ces métiers. Voilà, quand il y en a un qui a le moral qui baisse, l'autre le rattrape. Et en général, il y a un juste équilibre. Mais c'est vrai que c'est... à côté de ça, cet homme vraiment est un passionné. Et d'ailleurs, je me souviens quand il m'avait dit, ça se voit que vous aussi, vous êtes passionné par ce travail parce que vous regardez les gâteaux dans le four. Et quelqu'un qui regarde le four avec son... comme ça, en regardant son gâteau pousser, tout fier, en général, Il voyait ça comme ça. C'est qu'on est impatient, on est curieux, on a peur que ça ne marche pas. Donc, moi, j'aimais bien cette période-là. Et après, j'avais choisi Gérard Bougnor qui faisait le gâteau d'Albret à Mont-de-Marsan parce qu'il faisait les gâteaux sur les marchés. Il vendait sur les marchés. Donc, comme j'avais en projet de vendre sur les marchés, je voulais voir comment c'était de travailler sans boutique. Donc, j'ai travaillé avec lui. Et après, donc, quand j'ai créé mon entreprise, il me prêtait son labo pour démarrer et pour vendre voilà, après ma production sur les marchés. Mais pareil, un homme passionné, très très doué, voilà, qui travaille avec des vrais produits. Pareil, chez eux, je n'ai pas ouvert de carton de produits finis. Non, vraiment des chouettes personnes. Ouais.
Vous avez parlé d'eux dans le petit texte pour préparer l'émission, en disant que ce sont des amoureux de la vie.
Ah ouais.
Ça veut dire quoi ?
Mais toujours, à chaque fois que j'arrivais, ils avaient le sourire, ils s'intéressaient aux gens, ils s'intéressaient à moi, comment j'allais. J'avais un bébé déjà à l'époque, j'avais Agathe, donc pour eux c'était courageux de reprendre ses études avec un bébé. Ils étaient très, ils voulaient avoir de mes nouvelles, ils s'occupaient de moi, ils m'enseignaient leur travail, donc voilà. Et à côté de ça... pareil, ils étaient curieux d'autres choses que leur travail, que la pâtisserie. Avec Gérard, on écoutait la radio quand on travaillait ensemble dans le labo. C'était Là-bas, si j'y suis, par exemple, des émissions assez engagées. On refaisait le monde, hein, bien sûr, en travaillant. On râlait sur la bêtise humaine, sur l'agroalimentaire, sur les aberrations du monde. Donc, c'est des gens qui aiment la nature. Quand on fait des métiers de bouche, hein, on nourrit les gens, on est très terre à terre aussi. C'est la vraie vie, quoi. Et puis on travaille avec des matières premières. Les animaux, les plantes. Moi, je sais que ça va paraître bête ce que je dis, mais bon, moi j'ai du sucre, j'ai de la farine. Derrière la farine, y a quelqu'un qui fait du blé, qui fait pousser du blé. Des œufs, ces animaux. Moi je ne prends que des œufs plein air. Je pense à tout ça, quoi. Je fais partie d'un tout. C'est pour ça qu'il faut aimer la vie pour faire ce métier-là. C'est important. Ouais.
Alors pour conclure. Cette émission, Élodie, il y a une question qui revient quant à votre parcours, votre chemin. Comment vous regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant ?
Je suis plutôt satisfaite. Voilà. Je suis plutôt satisfaite. Je pense que quand j'ai une idée en tête, je fonce. Voilà. Quand je décide d'avoir un enfant, j'ai un enfant. Quand je décide d'ouvrir mon resto, j'ouvre le resto. Je me suis toujours donné les moyens, mais vraiment avec rien. Je me suis toujours débrouillée pour faire tout ce que je voulais. Après, franchement, avec des hauts et des bas, hein, parce que rien n'a été facile. Mais je suis plutôt contente parce que la personne que je suis aujourd'hui, évidemment, c'est aussi grâce à ses échecs. Grâce à ses réussites aussi, hein, voilà. J'ai bien aimé. Est-ce que je referais tout pareil ? Tout le monde dit oui, je referais pareil et tout, mais bon, moi je pense que j'augmenterai les prix de suite parce que voilà, j'aurais peut-être un petit peu plus gagné ma vie. Sérieusement, je regrette pas. C'était chouette, tout était chouette, ouais. Et ça continue, hein. Je ne veux pas parler au passé, mais pour l'instant, ça va. Ouais. Non, c'est bien. Je ne fais que des rencontres sympas. J'aime bien. J'aime bien ma vie. J'aime bien ma vie aujourd'hui.
Merci beaucoup, Élodie.
Avec plaisir. Merci.
Un immense merci à Élodie Vignier pour son naturel, son rire et cet épisode. Merci à Nico à la technique qui va monter cet épisode alors que je serai en vacances. Et merci à vous qui écoutez Les Femmes de chez moi.
Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une guerre entre les hommes et les femmes.
We want to end gender inequality.
J'ai l'impression tout de même qu'elles sont moins résignées qu'elles ne l'étaient auparavant.
And to do this.
Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Il y en a vraiment peu.
We need everyone involved.
À bientôt chez les femmes de chez moi.